sont la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Bonjour et bienvenue sur Phil FM, la radio qu'on aime, enfin plutôt au paradis. Vous allez écouter une interview croisée, ou si vous préférez, une interview réciproque, entre Marie-Antoinette et Olympe de Gouges. Cette fiction documentaire a été écrite par Canelo et Naïs. Écoutons-les.
Bonjour madame.
Bonjour madame.
Madame, votre visage me dit quelque chose.
Mais voyons, tout le peuple me connaît, je suis Marie-Antoinette.
Marie-Antoinette, la veuve Capet ?
Oui, mais je déteste ce surnom. Mais vous, qui êtes-vous ?
Moi, je suis Marie-Olympe de Gouges, ou plutôt Olympe de Gouges.
Ce nom me dit quelque chose, mais vous savez, je ne connais pas tout mon peuple.
Je me ferai un plaisir de vous conter ma vie. Feriez-vous de même ?
Bien sûr, mais qu'avez-vous de si important pour vouloir me rencontrer, moi, une ancienne reine ? Enfin, depuis que nous sommes mortes, nous ne nous occupons plus de notre rang. Donc je vous écoute.
Moi, je suis Olympe de Gouges. J'ai écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Je me suis battue pour les droits de la femme afin que nous ayons les mêmes droits que les hommes. Vous devez me comprendre, vous êtes une femme.
Oui, je vous comprends, mais vous savez, j'ai toujours été la femme d'un roi, donc je n'ai jamais connu le manque de pain.
Ce n'est pas seulement une question de nourriture. Ah oui, mais au fait, avec combien de rois avez-vous été mariée ?
Tout le monde croit que je me suis mariée avec plusieurs hommes, mais non, c'était juste que j'étais mariée très tôt avec Louis XVI. En 1770, j'avais 14 ans. Et vous, avec qui étiez-vous mariée ?
J'ai été mariée à 16 ans, en 1765, avec Louis-Yves Aubry, un traiteur parisien avec qui j'ai fait mon seul enfant, Pierre. Mais pourquoi vous appelle-t-on la veuve Capet ?
Parce que pendant quelques mois, j'ai été veuve de Louis XVI, que les révolutionnaires ont appelé Louis Capet.
Je suis née à Montauban en 1748 d'une famille modeste, avec comme mère une servante et comme père un marquis nommé Franc de Pompignan que ma mère a eu comme maître. Et vous ?
Moi, je suis née à Vienne, en Autriche, en 1755. Mon père était l'empereur François Ier de Lorraine et ma mère s'appelait Marie-Thérèse d'Autriche.
On ne décide pas sa famille dans laquelle on est. Je me suis aussi beaucoup battue pour passer d'une monarchie absolue à une république.
Quoi ? Vous vouliez éliminer mon mari et moi-même ?
Non, ce n'était pas votre rencontre. C'est juste que nous, le peuple, on voulait être respectés. On ne voulait pas être victime de la lettre de cachet. On ne voulait pas payer plus d'impôts que les riches, alors que nous n'avions moins d'argent qu'eux. On voulait la baisse du prix du pain.
Oui, mais de toute manière, vous étiez des bons à rien, des gens de peu, pas faits pour gouverner, juste bons à travailler la terre ou à être artisans. Je ne sais même pas pourquoi je perds mon temps précieux à vous parler.
Vous n'avez même pas d'argument. Tout ce que vous trouvez, c'est d'achever cette conversation qui débutait fort bien.
Oh, mais quelle manière avez-vous ? De toute mon existence, personne ne m'a jamais parlé sur ce ton.
Désolée, je me suis emportée.
Et moi de même, de vous avoir traité de bon à rien.
Parlez-moi un peu plus de vous, si vous le voulez bien.
Mon cher époux ne s'intéressait guère à moi, et j'ai dû attendre 8 ans pour avoir ma première fille, la petite Madame Royale, Marie-Thérèse de France, qui deviendra par la Suisse la Duchesse d'Angoulême.
Vous ne vous ennuyez pas, puisque votre mari ne s'intéressait point à vous ?
Oh non, je participais à de nombreuses fêtes, à des bals organisés à la cour, à des tables de jeu où je perdais souvent de grosses sommes. D'ailleurs, ma mère me disait de dépenser moins car j'allais être ruinée. Je faisais aussi des escapades avec mes compagnons favoris et mes amis venaient souvent à la cour me rendre visite.
Mais dites-moi, combien d'enfants avez-vous eu ?
J'ai donné naissance à 4 enfants, Louis-Joseph, Louis-Charles, Sophie-Béatrice et Marie-Thérèse.
Qu'avez-vous fait pendant la Révolution ?
C'est moi qui ai incité mon mari à s'enfuir à Varennes-sur-Argonne en 1791, mais nous avons été dénoncés par un épicier qui nous a reconnus. Nous nous sommes ensuite réfugiés au palais des Tuileries avec mon mari. Mais il s'est fait guillotiner le 21 janvier 1793. On me sépare de mon fils qui était contre moi, puis ma fille un mois plus tard. Je meurs guillotinée de même, 10 mois après le décès de mon conjoint. Et j'espère que mes enfants ont reçu ma lettre.
Quelle lettre ?
Une lettre que j'ai écrite 2 heures avant ma mort, que j'ai voulu faire passer à mes enfants par la servante, dans laquelle j'ai écrit des recommandations. Mais vous, qu'avez-vous fait pendant la Révolution ?
Je me suis battue pour les droits de la femme. Vous savez qu'aux séances de la Convention nationale, il y avait des femmes, on les appelait les tricoteuses. Elles faisaient leur travail de femme en tricotant et appelaient à l'égalité. Elles assistaient aussi au tribunal révolutionnaire. Certains médisants les appelaient les enragées ou les furies de la guillotine.
Ah oui, je les ai vues lors de mon procès.
Les femmes ont été égales devant la guillotine. Charlotte Corday, Madame du Barry, Lucile Desmoulins et moi-même. Et pourtant, la Révolution française a écrit un texte de loi, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où la femme n'existait pas.
Oui, bon, il se fait tard. Ce thé en votre compagnie était digne d'honneur. Je vous remercie et j'espère qu'on se reverra.
Cela a été aussi pour moi un grand plaisir. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Ah, pour l'émission aussi, j'ai choisi la Carmagnole, un chant révolutionnaire.
Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus quartier. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu, Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber sur le cul. Mais le coup a manqué, elle a le nez cassé. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Son mari se croyant vainqueur, son mari se croyant vainqueur, connaissait peu notre valeur, connaissait peu notre valeur. Va Louis Gros Paour du temple dans la tour. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Les Suisses avaient promis, les Suisses avaient promis qu'ils feraient feu sur nos amis, qu'ils feraient feu sur nos amis. Mais comme ils ont sauté, comme ils ont tous dansé. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Quand Antoinette vit la tour, quand Antoinette vit la tour, elle voulut faire demi-tour, elle voulut faire demi-tour. Elle avait mal au cœur de se voir sans honneur. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
If you got a problem,
listen to Phil FM.
It's like cream.